Maintenant, nous écoutons le Père Emmanuel Marie du couvent d'Avrier qui va nous parler de l'écriture, de la Sainte Écriture aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement important pour l'Église puisque cela regarde la transmission d'une partie de la révélation et donc la transmission de la foi.
Mes seigneurs, chers confrères, chers amis, je dois vous parler du bilan et des perspectives pour une vraie restauration de l'exégèse. Mais faire un bilan ou une évaluation critique de l'exégèse moderne en un exposé si court, à peine une heure, c'est une gageure. Alors, à défaut de bilan général, je vous propose d'examiner ce qui est la référence officielle de l'exégèse moderne, la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II. Sans doute ce texte, apparemment du moins, n'est pas le pire des documents conciliaires. Mais il est la norme de l'exégèse actuelle et à titre d'exemple, nous pouvons citer ce que l'introduction d'un ouvrage collectif de recherche sur le Concile, ouvrage qui s'intitule Vatican II, bilan et perspective, 25 ans après, ce livre a été écrit en 1988, Donc, dans l'introduction de ce livre, René Latourelle dit ceci. Le livre a consacré toute une section à Dei Verbum, donc une part très importante. Il dit, citation, « La densité et la puissance nucléaire de ce texte, de cette constitution Dei Verbum, n'ont pas fini de se déployer. » Et effectivement, c'est ce à quoi nous assistons. Dei Verbum a entériné la révolution biblique, commencée au début du siècle, notamment avec ce que on a appelé la méthode historico-critique, et surtout Dei Verbum a fixé les principes de la protestantisation de la science biblique dans l'Église. Et puis, et ça n'est pas l'aspect le moins intéressant, l'histoire de la rédaction de Dei Verbum est très intéressante, parce qu'elle illustre le processus de subversion doctrinale actuelle. Ce texte a connu 5 moutures avant sa promulgation définitive en 1965. Et les discussions passionnées sur le contenu et sur la formulation de ces chapitres, tant avant que pendant le Concile, sont très révélatrices des conquêtes de l'esprit de l'exégèse nouvelle. On peut dire, pour résumer, que l'on est passé d'une conception et d'un document catholique, le schéma originel, préconciliaire, qui s'intitulait « De fontibus revelationis », des sources de la révélation. C'est ce schéma que la commission théologique préparatoire avait proposé en 1961, on est donc passé de cette conception catholique à une conception et à un document subtilement imprégné de protestantisme et de néo-modernisme, c'est le document Dei Verbum du texte final de 1965. Alors du coup, et j'anticipe la conclusion, les perspectives pour une vraie restauration de l'exégèse sont toutes trouvées. Pour revenir à une exégèse catholique, il suffit de faire le chemin inverse et de reprendre ce texte originel, ce schéma De Fontibus, moyennant bien sûr quelques aménagements, quelques compléments, car ce texte, dans un langage simple, adapté à un large public, donnait, à la lumière des grands enseignements pontificaux sur la question biblique, la réponse du magistère et des experts catholiques à tous les grands problèmes qui se posent aujourd'hui à l'exégèse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser les limites de notre propos. Cette constitution Dei Verbum est assez longue. Elle contient un préambule, un épilogue et 6 chapitres. Je vous donne juste les titres qui vous montrent toute la densité de ce texte. Les 2 premiers chapitres sont consacrés à la notion de révélation, la révélation en elle-même et la transmission de la divine révélation. Le 3e chapitre est consacré à l'inspiration divine de la Sainte Écriture et son interprétation. Donc finalement, c'est tout le problème de l'inhérence et de l'interprétation biblique. Le 4e chapitre est consacré à l'Ancien Testament, le 5e chapitre au Nouveau Testament, les évangiles spécialement, et enfin le 6e chapitre est intitulé « La Sainte Écriture dans la vie de l'Église ». Comme il n'est pas possible d'étudier tout le texte, je vous propose de ne regarder que le 6e chapitre, ce chapitre consacré à la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Nous choisissons ce chapitre à dessein parce qu'il est le plus général et qu'il exprime le mieux l'esprit de la nouvelle exégèse, et notamment ses incidences œcuméniques. Il est moins riche de contenu doctrinal que les chapitres précédents, et on pourrait penser à cause de cela qu'il est de moindre importance. Il n'en est rien. Les protestants d'ailleurs ne s'y sont pas trompés. Max Turian, du temps où il était encore pasteur, mais a-t-il cessé de l'être, a dit que ce chapitre était une clé pour la compréhension de toute la Constitution. Et un autre pasteur, le pasteur Lucas Vischer, qui était observateur au Concile, a estimé que c'était la partie la plus importante de Dei Verbum. D'ailleurs, les modifications successives du titre de ce chapitre, entre le document originel De Fontibus et puis le document ultime, montrent l'évolution de tout le texte de Dei Verbum. On est passé de l'exposition doctrinale, classique, des rapports entre l'Écriture et l'Église, le titre originel était De Sacra Scriptura in Ecclesia, à une présentation d'inspiration protestante, existentialiste, pastorale, peut-on dire, au sens qu'a pris ce mot depuis le Concile, sur le rôle actif et prépondérant de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Et le mot « vie » a beaucoup d'importance. Le titre ultime est « De Sacra Scriptura in Vita Ecclesia ». Disons d'abord un mot des deux schémas originaux, car à l'origine de Dei Verbum, il y a deux schémas. Deux schémas issus de deux conceptions diamétralement opposées. Le schéma officiel de la commission théologique, qui s'intitulait donc « De Fontibus Revelationis », des sources de la révélation, et un contre-schéma sauvage du secrétariat pour l'unité des chrétiens, du cardinal Béat, qui était intitulé « De Verbo Dei ». Et vous voyez que le titre définitif sera repris de ce schéma. On pense, en évoquant cette histoire, à l'histoire de Jacob et Ésaü dans la Bible. Deux nations sont dans ton sein, dit la Genèse. Deux peuples, au sortir de tes entrailles, se sépareront, mais un peuple l'emportera sur l'autre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Disons d'abord un mot du schéma primitif De Fontibus. Donc, du dernier chapitre de ce schéma, nous ne parlons que du chapitre ultime, qui était le chapitre 5, d'ailleurs, à ce moment-là, car il n'y avait que 5 chapitres dans ce schéma primitif. Le titre était donc « De Sacra Scriptura in Ecclesia », la Sainte Écriture dans l'Église. La dominante restait dogmatique, même si ce chapitre, contrairement au précédent, abordait plusieurs questions d'ordre pastoral. Le premier paragraphe, qui dans le texte était sous le numéro 24, avait pour titre « Le soin de l'Église à l'égard de la Sainte Écriture ». Et les auteurs du document avaient voulu répondre à l'accusation mensongère de ceux qui prétendaient que l'Église avait empêché l'accès de la Bible aux fidèles. C'est une théorie protestante, cela. Je vous cite le texte. « Le trésor céleste des saints livres, que l'Esprit Saint, avec une extrême charité et libéralité, a transmis aux hommes par l'Église, n'a jamais été caché dans l'Église. » En effet, dès le début, l'Église du Christ a gardé les divins oracles avec la plus grande vénération et le plus grand empressement, les a défendus contre toute fausse interprétation, les a utilisés avec sollicitude pour le salut des âmes, notamment dans la prédication sacrée, et n'a cessé de les offrir chaque jour à tous dans la liturgie. On le voit, les rédacteurs du texte avaient eu le souci, conformément à l'enseignement des grandes encycliques bibliques, d'affirmer clairement le lien de dépendance entre l'Écriture et l'Église, tant pour sa réception que pour son interprétation ou son usage. Le trésor de l'Écriture, pardon, nous est donné uniquement dans et par l'Église. Ces rappels insistants visaient à condamner, bien sûr, la conception protestante et néo-moderniste, qui pourtant devait l'emporter. Le texte recommandait ensuite, c'était le numéro 25, la version de la Vulgate, sans préjudice pour les autres versions anciennes, notamment la version dite des Septante, donc la version grecque, et faisait un certain nombre de considérations sur les bienfaits et la nécessité de la lecture et de l'étude de l'Écriture pour les prêtres et pour les fidèles, en insistant sur les conditions requises pour que cette lecture soit fructueuse. Je vous cite, « Les saintes lettres peuvent conduire au salut lorsqu'elles sont reçues de la main de l'Église. » C'est toujours la même idée. Le Concile, c'est une autre citation, avertit les fidèles d'aborder le texte sacré en tenant compte de la doctrine de l'Église et après une instruction solide et appropriée. Les traductions destinées aux fidèles doivent être contrôlées et approuvées par les évêques. pourvu en outre d'explications nécessaires et vraiment suffisantes selon l'esprit de l'Église, dont le magistère vivant est pour les fidèles la règle prochaine de la foi. En effet, le sens authentique des divines paroles ne peut être déterminé par n'importe qui, même un homme savant, mais c'est au seul magistère de l'Église qu'a été confiée la charge d'interpréter le dépôt de la Sainte Écriture. Donc toujours cette même insistance sur le rapport entre l'Écriture et l'Église. Et puis enfin, les deux derniers paragraphes de cet ultime chapitre du De Fontibus, les paragraphes 28 et 29, également très importants, traitaient de l'exégèse en elle-même et dans ses rapports avec la théologie. L'exégèse, disait le numéro 28, n'est pas une science purement humaine, mais réclame la foi et le secours de l'Esprit-Saint. Pour faire un bon exégète, pour faire une bonne exégèse, il faut l'Esprit surnaturel. Je vous cite à nouveau le texte. « Ceux qui, dans l'Église et pour l'utilité de l'Église, travaillent de façon louable à déchiffrer par leur science les paroles divines », le texte parlait ici de l'explicitation d'après le sens littéral, « doivent pourtant se rappeler qu'ils ont toujours besoin du secours de l'Esprit-Saint de Dieu pour expliquer les Saintes Écritures et que l'Écriture ne peut être comprise autrement que le réclame le sens du Saint-Esprit avec lequel elle fut rédigée. » Et il était recommandé qu'à la plus grande érudition des modernes se joigne cette suavité d'exposition et de langage dans la doctrine spirituelle à laquelle excellaient les anciens pères et docteurs, uniquement mus par l'amour de l'Église et le salut des âmes. Fin de citation. Et puis enfin, il y avait une citation de l'encyclique Divino Afflante de Pie XII et du serment antimoderniste disant que il fallait encourager les exégètes à rechercher et à favoriser une interprétation théologique de l'Écriture sainte. Citation, que les exégètes catholiques aient donc le plus grand souci de la doctrine théologique des textes sacrés. Et pour cela, on fixait les conditions. Tout ceci ne peut arriver que si les plus savants en matière biblique, avec la révérence et l'obéissance qui conviennent, prêtent attention à l'analogie de la foi, à la tradition de l'Église et aux règles constamment édictées sur ce point par le siège apostolique. Donc vous voyez comme ce schéma originel était conçu dans un esprit vraiment traditionnel. Disons un mot maintenant du contre-schéma, De Verbo Dei, le contre-schéma du secrétariat pour l'unité des chrétiens. Car ce schéma De Fontibus fut violemment attaqué avant même le concile. Les progressistes reprochaient à ce texte de n'être pas assez pastoral, de trop condamner, d'être pessimiste et de méconnaître l'orientation œcuménique et l'ouverture au monde voulue par Jean XXIII. Alors, le secrétariat pour l'unité des chrétiens du cardinal Béat constitua en son sein une sous-commission qui était présidée par Mgr Volk, qui mit au point un contre-schéma pastoral sur le thème de la parole de Dieu. Notez ce terme, parole de Dieu, qui n'était pas employé, ou du moins pas systématiquement employé, dans le schéma De Fontibus. Le titre de ce schéma était donc De Verbo Dei. Ce texte fut plusieurs fois remanié, il fut achevé en mars 1962, c'était donc trop tard pour que la commission centrale préconciliaire en tienne compte et l'intègre au premier lot de schémas qui furent envoyés aux pères conciliaires avant l'ouverture du concile. Mais tout de même, ce petit texte, qui ne faisait que 5 pages imprimées, aura une très grande influence dans la suite. Quant au fond, c'était une ébauche de la théologie de la parole de Dieu. Ce texte ne voulait pas être dogmatique, donc on ne donnait aucune définition précise. On se contentait de dire très généralement que la parole de Dieu incluait, citation, « tout ce que Dieu nous dit par la révélation, parole écrite et transmise ». Qui résonne dans le culte liturgique et dans la vie de l'Église. Vous voyez comme l'Écriture était entendue d'une manière très très large. La révélation, elle, était définie comme, citation, « le dialogue incessant de Dieu avec l'homme par sa parole ». Ces définitions tout à fait extensibles et ambiguës annonçaient des conclusions très novatrices. Il faut dire, bien sûr, que l'expression « parole de Dieu » est traditionnelle. On la trouve dans la Bible, on la trouve chez les pères de l'Église. Mais si les auteurs du De Verbo Dei avaient choisi cette formule de préférence au mot « écriture », c'est qu'ils jugeaient ce mot « écriture » trop figé. Et ils voulaient donner à l'expression une extension beaucoup plus large. La parole de Dieu, pour eux, signifiait bien plus que la vérité contenue dans les livres saints. C'était l'écriture célébrée et priée par la liturgie, en perpétuel déploiement, rendue vivante par sa réception, par sa transmission, par son actualisation, pour reprendre des mots qui sont devenus très à la mode, dans l'Église. La parole de Dieu débordait de toutes parts l'écriture qui n'en était au fond que le contenant et le révélateur. Vous voyez que ce concept opportunément élastique allait permettre de profondes mutations. Le schéma commençait par rejeter, après l'avoir caricaturé, la thèse traditionnelle qu'énonçait le De Fontibus. Citation, « La parole de Dieu n'est pas seulement une source de vérité définissable. Elle n'était pas, disait-on encore, un dépôt, mais elle était une source de vie, rendue présente à travers la lecture de la Bible, dans la liturgie, dans la prédication, dans la catéchèse. On magnifiait la suffisance et la puissance vivifiante de la parole de Dieu. » Autre citation, « Une si grande force et puissance spirituelle réside dans la parole de Dieu, une telle vigueur céleste et puissance surnaturelle, qu'elle est vraiment pour tous les fidèles source de vie spirituelle, nourriture pour l'âme, force pour la foi, soutien et vigueur pour l'Église. » Alors on pourrait discuter, ces textes ne sont pas tout à fait faux, bien sûr. On trouve même dans l'Épître aux Hébreux une idée qui est proche de ce qui est exprimé ici. Mais vous voyez, comme il y avait une volonté de bien montrer combien la parole de Dieu en elle-même, et surtout dans son extension dans la vie de l'Église, comprise par le libre examen, il y a donc quelque chose de très protestant derrière tout ça, avait une puissance quasi infinie. Ce passage d'ailleurs se retrouvera presque textuellement dans le chapitre 6e de la Constitution Dei Verbum. Et même, le texte allait encore plus loin, en attribuant à la parole de Dieu un pouvoir quasi sacramentel, et soulignait la nécessité de lui donner donc une plus grande place dans la célébration des sacrements et dans la prédication qui entoure. Et c'est pourquoi, dans la nouvelle liturgie, on ne peut plus donner un sacrement sans faire en même temps un petit sermon ayant pour base la Sainte Écriture. On demandait que ce fût au centre, que la parole de Dieu fût au centre de la formation cléricale. Les théologiens du secrétariat considéraient en effet que les pères du Concile de Trente, dans leur souci de contrer le protestantisme, qui mettait bien sûr l'accent sur la parole de Dieu, avait développé une doctrine univoque et unilatérale des sacrements comme unique source de la grâce. L'Église catholique était donc devenue, selon eux, l'Église des sacrements, par opposition à l'Église réformée qui se voulait l'Église de la parole. Il fallait donc que Vatican II réaffirme le caractère central de la parole de Dieu pour rééquilibrer les choses. Et en outre, cela rendrait un service notable à l'œcuménisme en rapprochant les positions catholiques et protestantes. Vous voyez donc qu'il y a deux perspectives qui vont s'affronter dans le Concile. La perspective du De Fontibus, la perspective du De Verbo Dei. On peut dire qu'il y a trois grandes oppositions finalement. D'abord une opposition doctrinale, vous voyez bien que ce n'est pas la même doctrine, encore que dans le texte De Verbo Dei, il n'est pas parlé de doctrine. Cette opposition doctrinale, qu'on peut bien sûr discerner, elle n'était pas explicite. Et nous allons revenir sur ce point car il est très important. En conséquence, pour les novateurs, la parole de Dieu était devenue supérieure à l'Église. Je vous cite une petite phrase du De Verbo Dei. « Sans la parole de Dieu, l'Église ne peut être, ni même être pensée. » L'Église ne peut pas être, ne peut pas exister, et elle ne peut même pas être pensée sans la parole de Dieu. L'Église est dite, par toujours ce texte De Verbo Dei, Verbi Dei Ministra, servante de la parole de Dieu. On voulait minimiser le rôle du magistère, le rôle d'interprète infaillible de l'Écriture, pour faire du magistère uniquement un serviteur de la parole. Et puis bien sûr, la troisième opposition portait sur le mode pastoral du schéma. Entre la commission théologique qui avait préparé le De Fontibus et puis le secrétariat pour l'unité des chrétiens, on n'avait pas la même notion de ce qu'on appelait le pastoral, la pastorale. Pour la commission théologique, on estimait que le zèle pastoral consistait surtout à enseigner, à prémunir les âmes contre les erreurs contemporaines. C'était ainsi qu'on comprenait le zèle pastoral. Le secrétariat, en revanche, était très préoccupé de répondre aux interrogations du monde moderne et en particulier à l'attente des partenaires du dialogue œcuménique. C'était ainsi qu'ils entendaient la pastorale. Ce schéma De Verbo Dei ne fut jamais distribué aux pères du Concile. Mais, nous allons le dire dans un instant, le schéma Defontibus va être rejeté dès le début du concile par un vote le 20 novembre 1962. Et Jean XXIII va créer une commission mixte composée à la fois par des membres pris dans la commission théologique et dans le secrétariat. Et ça va permettre aux membres du secrétariat, et notamment à Mgr Volk, de faire passer leurs idées dans le texte conciliaire, dans la future constitution Verbum Dei. Passons maintenant au concile. Le grand débat sur le Defontibus, qui est le premier grand débat du concile, sera même le plus déterminant. C'est par ce débat-là, finalement, que le camp progressiste va définitivement l'emporter. Le débat a commencé le 14 novembre 1962 au cours de la première session. Et dans les jours qui ont précédé, il y a eu des conférences d'experts, des avis écrits qui ont circulé parmi les pères de l'Église. Et notamment, je voudrais signaler deux textes qui ont eu une grande importance, tant par l'autorité de leur auteur que par leur grande diffusion. Les Animadversiones de Schilbeck, le dominicain hollandais, et les Gravamina de Raner, qui était une suite de remarques sur le schéma Defontibus, une suite de critiques. Dans ces deux textes, il était dit finalement que le schéma Defontibus était irrecevable et qu'il fallait absolument que les pères du concile le rejettent catégoriquement, sans même chercher à l'amender. Et le père Raner, notamment, rentrait dans des critiques très précises qui toutes seront reprises dans le débat conciliaire dans l'Ola. C'est très intéressant de voir que les pères, les évêques qui vont se succéder au micro dans le concile pour éliminer le schéma Defontibus vont reprendre systématiquement les arguments qui auront été développés dans ces deux textes. En revanche, les pères qui chercheront à défendre le Defontibus n'auront guère d'autres instruments pour se battre que le texte du Defontibus lui-même. Alors, le débat dans l'Ola conciliaire a été très violent. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si d'un côté, on voulait coûte que coûte faire rejeter le schéma, et d'un autre côté, au contraire, on voulait le faire accepter, le débat pourtant n'a pas porté sur la question doctrinale. C'est le cardinal Ottaviani qui a ouvert le débat. Il était le président de la commission théologique, c'était donc normal que ce soit lui qui ouvre le débat. Il se plaignit d'abord de ce que des schémas de substitution circulaient parmi les pères, en totale contradiction avec les dispositions du droit canon qui réservent au pape la matière à étudier par un concile. Et surtout, il répondit à l'accusation qui taxait le Defontibus de manque d'esprit pastoral. Je vous cite le cardinal Ottaviani. « Je dis, la première fonction, le fondement de la pastorale, est la doctrine. Enseigner toutes les nations. C'est en cela que réside le fondement de la pastorale. » Et puis le cardinal Ottaviani répondit à divers reproches qui étaient faits au schéma Defontibus. Et puis il justifia ce schéma en expliquant qu'il avait été rédigé et approuvé au terme d'un labeur de 2 années par des évêques, par des experts, par des exégètes hautement qualifiés et qu'il avait reçu même l'agrément du pape. Mais cet agrément du pape sonnait un petit peu faux quand on sait que Jean XXIII, dans son grand discours d'ouverture du concile, Gaudete Mater in Ecclesia, le 11 octobre 1962, avait au contraire invité les pères du concile à faire œuvre pastorale. Je vous cite le pape Jean XXIII. Il invitait le concile à se mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, appelant non pas à la discussion de tel ou tel article de la doctrine fondamentale, mais à un bond en avant, l'expression est de Jean XXIII, un bond de l'Église dans le monde, en présentant tout, donc tout le travail du concile devait se faire ainsi, dans les formes et les propositions d'un magistère surtout pastoral. Alors bien évidemment, le camp progressiste va profiter de cette invitation, va largement en profiter. Le rapporteur officiel du schéma Defontibus, était Mgr Garofalo, le recteur de la propagande. Et c'était lui qui était d'ailleurs le principal rédacteur du Defontibus. Et lui aussi, comme le cardinal Ottaviani, plutôt que de présenter le contenu du schéma, a surtout cherché à répondre aux objections et à montrer que le texte ne manquait pas de caractère pastoral. Alors bien sûr, tous ces commentaires étaient très pertinents, mais vous voyez qu'ils entraînaient la défense traditionnelle sur le terrain de l'adversaire, où elle n'avait plus l'avantage et où ses arguments doctrinaux paraissaient inadéquats et se retournaient finalement contre elle. Et ainsi, finalement, le débat s'est engagé non pas sur le terrain doctrinal, où il aurait dû normalement se situer, mais sur la question de la pastoralité. On n'a pas opposé doctrine à doctrine, mais esprit à esprit, esprit pastoral à esprit scolastique. On a rejeté la doctrine du defunctibus pour lui substituer non pas une autre doctrine, mais un schéma pastoral. Et c'est un point à souligner. Car finalement, il s'ensuit que l'exégèse nouvelle, celle qui se réclame aujourd'hui de Dei Verbum, comme de son texte fondateur, n'a aucun fondement doctrinal véritable à proposer, sinon quelques thèses de référence qui sont surtout des prises de position contre la doctrine traditionnelle. En définitive, cette exégèse nouvelle repose essentiellement sur un esprit nouveau, l'esprit pastoral, opposé à l'esprit catholique ancien. Et l'aile traditionnelle du Concile s'est trouvée désemparée devant cette tournure que prenaient les débats. Si bien d'ailleurs que dans l'Aula elle-même, les débats n'ont pas vraiment été doctrinaux. Ils ne sont jamais redevenus doctrinaux. C'est uniquement dans les commissions, donc dans le travail qui se faisait en coulisses, qu'on a abordé vraiment les questions doctrinales des premiers chapitres de la Constitution Dei Verbum, notamment les questions sur la révélation, les chapitres 1 et 2, la question de l'inhérence et la question de l'interprétation, le chapitre 3, et puis tout ce qui tournait autour de l'Ancien et du Nouveau Testament, notamment l'historicité des évangiles, le chapitre 4. Je ne voudrais pas m'y attarder, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me permets simplement de vous signaler deux interventions qui ont eu une grande influence, celle de Monseigneur Georges Hakim, qui était l'archevêque grec melkite de Saint-Jean d'Acre, et celle de Monseigneur de Smet, l'évêque de Bruges. Le premier a parlé en français, comme la plupart d'ailleurs des invités orientaux, et son intervention, qu'il présenta comme l'écho de la tradition et de la théologie de l'Orient, relève vraiment de la caricature. Je vous cite juste un tout petit extrait. « Nous regrettons, a-t-il dit, que, ignorant complètement la catéchèse et la théologie orientale, les rédacteurs du defunctibus aient dans leur projet apparemment monopolisé la foi universelle au profit de leur théologie particulière, et puisse sembler vouloir ériger en vérité conciliaire exclusive ce qui est une expression valable, mais locale et partielle de la révélation de Dieu. » Oui, il montrait finalement que ce schéma était simplement un produit de la scolastique ancienne, et que finalement ça n'avait pas d'intérêt, ça n'était pas universel. Et puis Monseigneur de Smet, qui était un membre du secrétariat pour l'unité des chrétiens, fit une déclaration qui eut un impact énorme, qui fut d'ailleurs très très applaudie par les pères conciliaires. Il a expliqué, lui, que le schéma manquait non seulement d'esprit pastoral, mais aussi, comme il l'a dit, d'œcuménicité, d'esprit œcuménique. Et il a exposé les conditions pour qu'un texte soit œcuménique. Je vous n'en cite qu'une seule, la quatrième des 9 conditions qu'il donna. « Il faut examiner, dit-il, s'il n'y a pas, dans notre manière de parler, des formes ou des formulations qui sont difficilement comprises par les non-catholiques. » Il faut dire ici que notre méthode scolastique ou quasiment scolaire constitue pour les non-catholiques une grande difficulté et est souvent l'origine d'erreurs et de préjugés. Il faut en dire autant d'une manière de parler abstraite et purement notionnelle qui n'est pas comprise par les orientaux. Au contraire, le style biblique et patristique par lui-même évite et prévient beaucoup de difficultés, de confusions, de préjugés. Il fallait donc promouvoir ce style biblique et patristique, et c'est ce qu'on a vu après le Concile. Vous voyez comme, finalement, Dei Verbum est bien à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Pastoralité, œcuménicité, tels sont donc les mots qui, de la bouche même des libéraux, résument le mieux le changement profond subi par le texte du defunctibus dans la suite du Concile. Alors, je vous passe sur le détail des débats. Comme manifestement beaucoup de pères intervenaient pour que le defunctibus soit rejeté, il y a eu un vote. On a décidé de voter. Le conseil de la présidence du concile décida de soumettre à un vote la décision de poursuivre ou non la discussion du defunctibus. Le résultat du scrutin, qui eut lieu le 20 novembre 1962, donna une large majorité pour l'interruption, sans atteindre, le quorum requis des 2/3. Donc normalement, on aurait dû continuer la discussion. On n'aurait pas dû rejeter le schéma. Et le pape est intervenu, sollicité par les cardinaux Béat et Léger pour renvoyer la question à une commission mixte composée de membres de la commission doctrinale qui était présidée par le cardinal Ottaviani, donc la commission théologique qui avait composé le Defunctibus, et de membres du secrétariat pour l'unité des chrétiens présidé par le cardinal Béat. On a donc mélangé, vous voyez, ces deux sources opposées pour rejeter le schéma sur les sources de la révélation et faire un nouveau schéma. Et les consignes données par Jean XXIII étaient de rédiger un nouveau schéma d'esprit pastoral. Le père Rouquette, dans la revue Études, a écrit ceci, qui résume bien les choses. « On peut considérer qu'avec ce vote du 20 novembre s'achève l'âge de la contre-réforme et qu'une ère nouvelle, aux conséquences imprévisibles, commence pour la chrétienté. » Cette ère, c'était l'ère de la nouvelle exégèse, de la nouvelle théologie, qui existait sans doute avant, mais qui ne triomphait pas. L'ère de la pastoralité, l'ère de l'œcuménicité. Et de la même manière, Giuseppe Ruggieri, je m'excuse de ma prononciation, a fait ce commentaire, citation, « Le Concile avait, sans le mettre encore par écrit, accompli l'une de ces mutations peut-être les plus importantes de l'évolution doctrinale de l'Église catholique, l'option pour la pastoralité de la doctrine. » L'expression, je crois, est très bien trouvée. Alors, ne rentrons pas trop dans le détail de la suite, car tout est joué à partir de ce moment-là. Le reste, finalement, est dans la logique de ce qui vient d'être fait. La commission mixte décidée par Jean XXIII s'est mise au travail. Elle a travaillé rapidement, si bien qu'en décembre 62, un mois après, le cardinal Béat pouvait dire « On est tombé d'accord sur tout, sauf sur une question, celle du rapport mutuel de l'écriture et de la tradition, c'est-à-dire le chapitre 1 de la future constitution Dei Verbum. Sur ce point, il n'y a pas eu d'accord. On l'a discuté parce que les représentants de la commission de théologie, donc ceux qui ne se trouvent pas dans l'écriture, et à l'inverse, les membres du secrétariat défendaient ce qu'on a appelé la thèse de la suffisance matérielle de l'écriture. Tout se trouve dans l'écriture et l'écriture se suffit à elle-même. C'était plus ou moins un ersatz de la thèse protestante du sola scriptura. Comme on n'est pas tombé d'accord, eh bien le camp traditionnel, finalement, a baissé les bras et on a décidé de laisser la question ouverte. Pour le reste, Jean XXIII avait donné comme consigne d'abréger le texte, de s'en tenir au principe, de donner au nouveau texte une orientation pastorale et œcuménique. Moyennant quoi, dans le chapitre 2, qui était consacré à l'inspiration et à l'inhérence, on a réduit considérablement tout ce qui était dit de l'inspiration. Le mot même d'inhérence a cessé d'apparaître. Toutes les conditions explicites pour définir cette inhérence ont été éliminées. Les condamnations ont disparu. Enfin, le texte est devenu pastoral. La notion de genre littéraire, en revanche, qui n'apparaissait même pas dans le texte originel, on parlait de la chose, mais on avait évité le mot, car le mot est très ambigu. Cette notion était réintroduite et développée abondamment. Les règles de l'herméneutique catholique n'étaient que vaguement évoquées. Donc vous voyez que ce chapitre 2 avait beaucoup évolué. Le chapitre 3 sur l'Ancien Testament n'insistait plus comme auparavant sur les prophéties explicites du Christ, mais seulement sur le caractère préparatoire au Christ de l'Ancienne Alliance tout entière. Donc là encore, on était allé dans le sens de quelque chose de beaucoup plus vague. Quant au chapitre 4 sur le Nouveau Testament, on avait cherché une formulation plus conforme aux recherches exégétiques contemporaines. Entendez par là, on avait minimisé l'affirmation de l'historicité des évangiles. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, et je voudrais vous en dire un petit mot, c'est le bouleversement du chapitre 5, donc du dernier chapitre du Defunctibus. Dans ce nouveau texte, donc la deuxième mouture, on avait rebaptisé le chapitre. Il était intitulé désormais « L'usage de la Sainte Écriture dans l'Église » et il était fortement abrégé. Et ce qui frappe quand on lit le nouveau texte, c'est la platitude de cette nouvelle rédaction. L'ancien texte du Defunctibus était remarquable de consistance et de clarté. Le nouveau texte était devenu insipide et verbeux. Le premier paragraphe ne s'intitulait plus « Le soin de l'Église à l'égard de la Sainte Écriture » mais « La vénération de l'Église pour la Sainte Écriture ». Autrement dit, on n'envisageait plus ce que l'Église avait fait pour l'Écriture, mais ce qu'elle devait à l'Écriture. On indiquait deux motifs à cette vénération. La présence de Dieu dans les livres saints, qui, citation, « vient avec grand amour au-devant de ses fils et converse presque avec eux », On pourrait reconnaître là, d'une manière plus ou moins implicite, l'idée du libre examen protestant. Et puis le deuxième motif de cette vénération était celui-ci, citation, la force et la puissance qui se trouvent dans la parole de Dieu. Donc c'est l'idée développée par Aner et qu'on trouvait déjà dans le De Verbo Dei dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième paragraphe, le paragraphe 22, avait supprimé la mention des versions anciennes et notamment la longue recommandation de la Vulgate que le Defuntibus avait déclarée version juridiquement authentique, absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les mœurs. Tout était centré désormais sur la préoccupation, et c'est, la phrase qui suit est une citation du texte, d'ouvrir largement à tous l'accès de l'écriture, et ce, au moyen de traductions en langue vernaculaire, établies avec soin d'après les textes originaux dont l'autorité est prééminente. Les experts du secrétariat estimaient en effet que l'insistance à établir des traductions de la Bible avait été plutôt le fait des protestants que de l'Église catholique. Alors il fallait que l'Église rattrape son retard. L'Église avait, dans le passé, n'avait apporté que des tracasseries surannées pour que les fidèles puissent lire le texte lui-même. Le troisième paragraphe, qui avait été déplacé par rapport au texte primitif, était intitulé désormais « La tâche apostolique des docteurs catholiques ». On ne parlait plus des exégètes catholiques, mais on parlait de la tâche apostolique des docteurs catholiques. Et ce texte avait été réduit de moitié. Le texte primitif résumait les devoirs de l'exégèse catholique. Le nouveau texte indiquait l'esprit que le Concile attendait des exégètes. Et c'est particulièrement ce paragraphe qui est devenu très imprécis, qui a été vidé de sa substance. Je vous en lis juste un tout petit extrait. « Épouse du Verbe incarné, l'Église, instruite par le Saint-Esprit de Dieu et du Christ, acquiert une intelligence chaque jour plus profonde des Saintes Écritures, afin de nourrir sans relâche ses fils de la parole divine. » Vous voyez comme les choses sont devenues finalement très verbeuses et très peu doctrinales, très vides. Le quatrième paragraphe modifiait le dernier paragraphe du De Fontibus en lui donnant pour titre « La théologie s'appuie sur la parole de Dieu ». Et on avait considéré que le texte antérieur était trop apologétique. Il parlait de défendre l'écriture contre les interprétations abusives. Bien plus, il faisait allusion à l'unité des deux sources de la révélation, écriture et tradition, pour justifier l'accord parfait entre l'exégèse et la théologie catholique. Alors tout cela avait été supprimé, et désormais on ne parlait plus que de la seule écriture pour dire qu'elle était finalement l'unique source de tout le travail théologique. On retrouvait là les thèses de Ranner sur le primat absolu de l'écriture. Et puis enfin, le cinquième paragraphe qui résumait les deux numéros 26 et 27 du De Fontibus sur la lecture de l'écriture sainte par les prêtres et par les fidèles, était devenu très affadi et très amputé. Toutes les réserves de l'ancien texte sur les dangers d'une lecture imprudente par les fidèles, par manque d'instruction ou par défaut d'explication suffisante, avaient été éliminées. À la place, on demandait aux évêques non plus de contrôler ou d'approuver les nouvelles traductions, mais de promouvoir le mouvement biblique. Et on sait ce que cela veut dire. Il était dit que les chrétiens devaient eux-mêmes aborder le texte sacré par le moyen de la sainte liturgie remplie des paroles divines ou par les autres institutions adaptées à cette fin. Et ces deux points, l'application pratique de ces deux points, on la trouve bien sûr dans le texte conciliaire sur la liturgie et dans le texte conciliaire sur l'apostolat des laïcs. Tout le renouveau liturgique, plein de cette volonté biblique, à appliquer cette volonté de Dei Verbum. Alors, je conclus d'une manière un petit peu générale, en parlant très rapidement des aggravations qui ont suivi cette deuxième mouture. Il y en a donc une troisième. En mai 63, le texte refondu, qui s'intitulait désormais « Constitution dogmatique sur la divine révélation », a été envoyé au père conciliaire, mais comme la deuxième session conciliaire était très chargée, eh bien, il n'a pas été examiné dans la deuxième session. Et entre-temps, comme les représentants du courant libéral, qui étaient devenus majoritaires dans le Concile, trouvaient que le texte était encore largement insuffisant, n'allait pas encore assez loin, on a décidé de reprendre l'examen de ce texte. Et Paul VI lui-même, dans la conclusion, dans le discours de clôture de la deuxième session conciliaire, a invité le Concile à réexaminer à nouveau la constitution dogmatique sur la divine révélation. Je vous cite juste une parole du père Degève, un hollandais, un jésuite, qui écrivait ceci en 1963, donc dans l'intercession entre la deuxième et troisième session conciliaire. Dans la perspective œcuménique où se joue le débat engagé au concile, c'est finalement de cela qu'il s'agit. Derrière le terme d'écriture sainte, c'est la parole de Dieu qui est visée par la réforme, et c'est son primat et sa suffisance qui est revendiquée par elle et par les théologiens œcuménistes qui entendent montrer qu'au sein de l'Église catholique, son autorité, l'autorité de la parole de Dieu, est totale et son témoignage normatif. Et on ne peut pas être plus clair, c'est du protestantisme. Alors on a donc repris l'étude du texte. La commission mixte a même confié cet examen à nouveau à la commission théologique, mais entre-temps, la commission théologique n'était plus du tout ce qu'elle était au début du concile. Elle avait été profondément remaniée et elle était devenue de tendance tout à fait progressiste. Le nouveau texte, donc le texte 3, qui a été élaboré, a pu être distribué, lui, aux pères conciliaires pour la troisième session. On l'avait à nouveau profondément remanié, on l'avait même finalement rallongé, car le texte 2 avait été tellement raccourci qu'on ne pouvait plus dire tout ce qu'on voulait dire sans mettre un certain nombre de rallonges. Je vous signale juste ce petit fait important, intéressant. Au moment où la commission théologique examinait donc ce texte, rédigeait ce texte, cette troisième mouture, la commission biblique pontificale fit paraître un texte sur la vérité historique des évangiles. Donc c'était normalement deux événements tout à fait indépendants l'un de l'autre. Et ce texte de la commission biblique pontificale sur l'historicité des évangiles approuvait, sous certaines réserves, la méthode de ce qu'on a appelé la forme gauchiste, c'est-à-dire cette méthode allemande qui consiste à décortiquer le texte d'une manière extrême. C'est une méthode d'exégèse tout à fait protestante. Je ne rentre pas dans le détail. Or, cet appui officiel d'une méthode protestante, jusqu'alors condamnée, a été pratiquement repris dans le texte de la constitution conciliaire. En effet, on retrouve des développements presque littéraux dans le chapitre 5e, donc le chapitre sur le Nouveau Testament, de la future constitution Dei Verbum. Donc, ce nouveau texte, ce texte 3, connaissait une notable aggravation. Alors, on a distribué ce texte 3 dans l'aula conciliaire. Il a été discuté pendant la troisième session du concile, c'est-à-dire à partir du 30 septembre 1964. Et à partir de ce moment-là, les pères de la minorité, donc les pères traditionnels, ceux qui continuaient de défendre la tradition de l'Église, malgré toutes leurs tentatives, n'ont rien pu faire pour améliorer sensiblement ce texte. Désormais, on peut dire que la minorité n'était plus à même d'obtenir des modifications importantes. Le concile était entièrement dominé par la majorité progressiste. Le texte est donc sorti confirmé de la discussion dans l'aula. Le débat achevé, comme dans tous les cas similaires, la sous-commission qui avait rédigé le texte a repris son travail pour essayer d'introduire tous les amendements qui avaient été réclamés par les pères conciliaires. On a donc eu une nouvelle mouture encore du texte, la quatrième mouture. Et comme la session conciliaire, la troisième session conciliaire, était arrivée à son terme, on n'a pas pu discuter ce texte 4, cette quatrième mouture, dans l'aula pendant la troisième session conciliaire. C'est simplement au début de la dernière session, la quatrième session conciliaire, les 21 et 22 septembre 1965, qu'on a pu procéder à la discussion de cette mouture. De nombreux amendements ont à nouveau été demandés, notamment par la minorité traditionnelle, mais tous les amendements importants portent sur les premiers chapitres de Dei Verbum. Donc, comme ça n'est pas l'objet de notre intervention, laissons-les de côté. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça n'est pas possible de tout examiner. Regardons simplement les modifications apportées par les moutures 3, 4 et 5 au dernier chapitre de notre Constitution, puisque c'est ce chapitre que nous avons choisi d'étudier. Très rapidement. Les rédacteurs donc, de 1963, comme je vous l'ai dit, avaient voulu abréger le texte et l'avaient même considérablement abrégé. Ceux de 1964 et de 1965 l'ont rallongé et l'ont rendu en tout cas encore plus verbeux. Le premier paragraphe, le numéro 21 du texte final, fut enrichi de deux considérations nouvelles de grande portée œcuménique et pastorale, qui donnaient au texte une tonalité nettement plus protestante. La première de ces considérations est le parallélisme entre l'Écriture et l'Eucharistie. Et vous retrouvez ce qu'on avait à l'origine dans le De Verbo Dei du Secrétariat pour l'Unité des Chrétiens. Je vous cite le texte. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle vénère aussi le corps lui-même du Seigneur, elle qui ne cesse de prendre le pain de vie sur la table, tant de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, et de le présenter aux fidèles. Alors la comparaison, bien sûr, entre l'Écriture sainte et le sacrement de l'Eucharistie ne manque pas d'intérêt spirituel. Et comme le firent d'ailleurs remarquer les auteurs de ce texte, elle est traditionnelle d'une certaine manière, puisqu'on la trouve dans l'imitation de Jésus-Christ et chez les pères de l'Église. Mais ce parallélisme dans un tel contexte, accentué d'ailleurs par le fait qu'on ne mentionnait qu'une seule table de la parole et du corps du Seigneur, alors que dans l'imitation de Jésus-Christ, il est question de la table de la parole et de la table du corps du Seigneur. Donc il y a une distinction très nette entre les deux. Ce parallélisme, dans le contexte où il était donné, risquait de réduire la présence eucharistique à une présence symbolique. Et en réalité, cette addition s'inscrivait dans la ligne du pouvoir sacramentel que les experts du secrétariat voulaient voir attribuer à la parole de Dieu. Il fallait rompre avec l'antiprotestantisme de la contre-réforme qui avait opposé les sacrements et la parole de Dieu. Donc il fallait réunir ces deux choses, et c'est pourquoi on a mis cela. Un auteur italien, Enzo Bianchi, a dit ceci: ce texte de Dei Verbum est extrêmement important et lourd de conséquences, car il donne à l'Écriture célébrée et priée dans l'Église jusqu'à devenir parole de Dieu par la force de l'Esprit Saint la qualité de sacrement. Et puis la deuxième considération ajoutée, de l'aveu même du protestant Kuhlmann, offre aussi beaucoup d'intérêt œcuménique. Il était dit que l'Église tient les divines Écritures conjointement avec la tradition pour la règle suprême de sa foi. Ça va très loin. On faisait de la parole de Dieu la norme ultime, le centre de toute la vie de l'Église. C'est finalement la thèse de Rahner qui a été inscrite ainsi dans Dei Verbum. C'est la version néo-moderniste de la sola scriptura des protestants. Et en conséquence, il était dit, toute prédication ecclésiastique et la religion chrétienne elle-même doivent donc se référer toujours à l'Écriture comme à la norme et à l'autorité qui les règle et qui les juge. L'expression allait même tellement loin, ce que je viens de vous citer est tiré de la troisième mouture, que dans les moutures 4 et 5, on a quelque peu atténué cette affirmation qui était un petit peu forte tout de même. Ensuite, autre petit point intéressant, on a voulu réintroduire tout de même la mention de la Vulgate. Mais alors, c'est toujours la manière de faire bien moderniste finalement, on donne une chose traditionnelle, on donne en même temps une chose très progressiste. À côté de cela, on a affirmé qu'il fallait faire des traductions en langue vulgaire et que ces traductions soient effectuées en collaboration avec les frères séparés. Et ça nous a donné la TOB. La TOB répond à une volonté conciliaire de Dei Verbum. La TOB, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible. Enfin, concernant la lecture de l'Écriture, le texte 3 ne distingue plus les prêtres et les fidèles, mais bloque dans une même exhortation tous les clercs, y compris d'ailleurs les catéchistes laïcs. Les catéchistes laïcs ont été inclus dans les clercs. Puis s'adresse aux fidèles, et un paragraphe a été ajouté, demandant que l'on établisse des éditions de la Sainte Écriture pourvues d'annotations appropriées à l'usage également des non-chrétiens et adaptées à leurs conditions, que tous prêtres et laïcs sont invités à répandre judicieusement. Donc vous voyez à nouveau, la visée œcuménique est très nette. Donc la structure de ce dernier chapitre, dans son ultime mouture, apparaît clairement. Le premier paragraphe donne le principe essentiel, la puissance intrinsèque et le caractère central de la parole de Dieu, suprême règle de la foi. Et puis les paragraphes suivants en tirent les conséquences pour toute la vie de l'Église. D'abord, l'universalité et l'œcuménicité de la parole de Dieu, c'est le numéro 22. Ensuite, l'exégèse au service de la parole de Dieu, c'est le numéro 23. Donc il faudra que cette nouvelle exégèse soit au service de ce caractère central de la parole de Dieu. Elle n'est faite plus que pour ça, finalement. Ensuite, la parole de Dieu devient l'âme et le fondement de la théologie, c'est le numéro 24. Donc il faudra que la théologie elle-même se règle sur cette nouvelle doctrine, cette nouvelle conception. Et puis enfin, la parole de Dieu, centre de la vie cléricale, liturgique, spirituelle et quotidienne des chrétiens. Ce sont toutes les conséquences pastorales qui sont évoquées dans le numéro 25. Le théologien protestant Karl Barth pouvait dire à juste titre, citation, « S'il y eut jamais un concile de réforme, on pourrait écrire « réforme » ici avec un R majuscule, Vatican II aura bien été celui-là. » Alors, je conclus, l'histoire de la rédaction de cette constitution Dei Verbum, l'analyse des débats qu'elle a suscités, l'examen comparé de ces différentes rédactions, et spécialement de son dernier chapitre que nous avons regardé ensemble, tout cela manifeste à quel point et en quel sens un esprit nouveau est apparu dans la manière d'envisager l'écriture sainte depuis Vatican II. Et d'ailleurs, le vocabulaire lui-même le montre, on ne parle plus ou presque désormais de la Sainte Écriture, mais de la parole de Dieu. Ce changement de perspective, bien sûr, s'est accompagné d'innovations doctrinales. Nous l'avons constaté, d'ailleurs je n'ai pas pu trop aborder cet aspect-là, parce qu'on ne peut pas tout dire. Dans le domaine de l'exégèse, la bataille doctrinale, qui s'est focalisée donc surtout dans le travail des commissions, a porté sur les rapports entre l'écriture et la tradition, sur la question de l'inhérence, sur la question de l'interprétation de l'écriture, sur l'historicité des évangiles. Mais au fond, au principe de ces transformations qui occupent les premiers chapitres de la Constitution, les cinq premiers chapitres, on trouve l'esprit nouveau, la perspective pastorale et œcuménique qui, elle, est exposée plus spécialement dans le chapitre sixième, le dernier chapitre de la Constitution. Et à ce point de vue, ce chapitre est donc le plus important. À ce point de vue, bien sûr. Il donne le motif, le sens profond de toute la Constitution. Aussi peut-on regretter que la résistance traditionnelle se soit surtout concentrée sur les chapitres dont les enjeux doctrinaux étaient plus évidents et plus classiques, les chapitres 1 à 5 de la Constitution, et ne se soit pas davantage attaqué à ce dernier chapitre. Alors, en d'autres termes, si plagiant le texte célèbre de Mgr Gaume sur la Révolution, qu'on trouve dans PQR, un texte qui est bien connu de tous nos amis, de tous ceux qui fréquentent la tradition, on demandait à la réforme conciliaire de l'écriture « Qui es-tu ?» C'est la question que posait Mgr Gaume en parlant de la Révolution. Elle dirait « Je ne suis ni le refus de la tradition, ni la diminution de l'inhérence, ni la négation de l'historicité des évangiles, ni la prolifération des genres littéraires, ni la remise en cause de l'authenticité des livres saints, etc. » On pourrait continuer ainsi. « Ni la méthode historico-critique, ni la forme gauchiste, ni toutes ces choses. Ces doctrines et ces méthodes sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Je suis le renversement de l'ordre traditionnel et catholique dans lequel la parole de Dieu, livrée au libre examen de l'homme, n'est pas au fondement et au centre de toute la vie de l'Église. » En définitive, ce chapitre 6 de Dei Verbum recommande, sans le dire, la théorie et la pratique protestante de la sola scriptura. C'est une protestantisation de l'exégèse. Et d'ailleurs, l'exégète protestant, Oscar Kuhlmann, a bien montré cela en disant que c'était un texte de compromis qui juxtapose, sans trancher, les deux points de vue catholiques et protestants. Mais cette juxtaposition œcuménique penche forcément en faveur du protestantisme. Et d'ailleurs, avec le recul du temps, nous le voyons bien maintenant. Alors, arrêtons là-dessus, en demandant bien évidemment à notre Seigneur, à la Vierge Marie, de nous faire comprendre ces choses et de nous aider dans notre travail. Il faut que les traditionalistes, que ceux qui ont bien conscience de ces choses, comme il était dit au début de ce congrès, ne se contentent pas de gémir, mais travaillent, prient, étudient, pour que nous arrivions petit à petit à un véritable renouveau, renouveau qui ne sera pas un faux renouveau, non pas ce renouveau que nous proposent certains exégètes actuels réputés conservateurs. Je pense par exemple au père de la Poterie ou même à l'abbé Roland, qui veulent que l'exégèse redevienne spirituelle et mystique, qu'elle s'écarte de la méthode historique qui était très scientiste, mais leur nouvelle exégèse spirituelle, ils la fondent sur Dei Verbum, sur l'esprit de Dei Verbum. Évidemment, nous ne pouvons pas les suivre en cela. C'est une illusion, c'est une catastrophe. Nous savons à quoi nous en tenir sur cet esprit de Dei Verbum. Je vous remercie.